Blog Talk Radio.
Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un nouvel épisode de La vie au-delà des opposés. Quand je dis nous, il s'agit de vous, chers auditeurs qui nous écoutez. De moi qui vous présente cette émission depuis l'Angleterre, je suis Marc, salut à tous. Et de Barbara qui se joint à nous depuis la France, bonjour Barbara.
Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Ici nous sommes sous la neige.
Bon, ok. Donc il fait nettement plus chaud en Angleterre. Enfin, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais il y a eu seulement une très 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 fine, insignifiante couche de neige qui est tombée cette nuit. Donc
oui.
On n'en voit déjà plus rien ici.
Ah, ben il fait pas froid parce que quand il neige, hein, il fait toujours 0 ou 1 degré. Mais ça vient, cette fois-ci, c'est épais, ce qui veut dire que sortir d'ici, on ne sait pas quand ça sera, parce que le chemin, on ne peut pas le prendre. Sauf si le tracteur communal a le temps de descendre et remonter, comme ça il y a des ornières qu'on peut suivre avec, parce que bon, sinon, ben, on attendra.
Voilà, donc tu n'as pas le choix, tu restes chez toi. Et comme ça, tu peux enregistrer l'émission.
Voilà.
Aujourd'hui, deux sujets au menu de notre émission, je crois, à moins que nous ayons d'autres inspirations en cours de route, ce qui est toujours possible. Mais ce dont on a prévu de vous parler, c'est encore toujours le cœur supérieur, avec la traduction des audios d'Almin, de la dernière interview d'Almin qui se poursuit. Et donc, on est toujours dans ce thème du cœur supérieur. Mais aujourd'hui, on va aborder l'émission avec une question, ou plutôt une série de questions, qui nous a été envoyée par un de nos fidèles auditeurs, Emmanuel de Normandie. C'est quelque chose qu'on encourage, entre parenthèses. Donc on est très content quand vous nous envoyez soit des questions, soit des réactions, soit des témoignages, pour alimenter l'interactivité de l'émission. Et donc, je veux aussi rappeler que vous pouvez toujours aussi nous téléphoner en cours d'émission. Oui.
Non.
Pas pour celle-ci, en fait, parce qu'elle est préenregistrée. Elle est préenregistrée, donc il est plus prudent de nous envoyer questions, réactions, témoignages par écrit. Et si vous souhaitez nous envoyer un témoignage par audio, vous pouvez toujours le faire. Et aussi, si vous souhaitez être interviewé pour partager vos expériences concernant l'enseignement d'Almin et ses outils, dans l'émission, vous pouvez toujours nous le signaler aussi, bien sûr. Alors donc, je vais vous lire ce qu'Emmanuel nous a envoyé. Ça fait déjà une petite dizaine de jours maintenant. J'entends ici et là que le corps, l'esprit humain, ont des programmes de survie très sophistiqués. Se déclenchent des signaux d'alerte par rapport à la survie, la douleur, qu'elle soit émotionnelle, physique ou psychique. Chercher à éviter cette douleur serait très sain. Par contre, chercher à éviter les douleurs inévitables serait de l'illusion. Douleur inévitable, celle de notre existence même. Bon, j'avoue que j'ai un problème avec ça, mais on va y revenir. L'être humain serait limité, fragile. Nous sommes obligés de connaître la douleur. L'amour inconditionnel serait d'accepter inconditionnellement notre condition humaine. Y a-t-il vraiment des douleurs à éviter ? et des douleurs inévitables? Si oui, quelles sont-elles? La douleur, toutes les douleurs, ne serait-elle pas elle-même une illusion dans le monde de la dualité? Comment peut-on éviter d'avoir peur de la douleur? Que peut-on dire aux gens autour de nous qui ont mal, enfin qui semblent avoir mal au moindre problème, au moindre truc perçu comme douloureux? Alors d'un côté, nous avons dans le domaine relationnel des gens de plus en plus exigeants, en tout cas c'est ce que je ressens de mes expériences, et de l'autre, incapables de faire face aux difficultés, faire face aux douleurs. Comment peuvent-ils se soigner pour ne plus ressentir ces douleurs, ressentir ce qui vient, accepter tout ce qui vient? J'entends souvent « je suis libre de vivre ce que j'ai envie de vivre ». Et dès que ça pique un peu, on fuit. Voilà, donc ça fait beaucoup de questions en fait, comme je le disais. Et on va essayer d'aborder une partie de ce questionnement au cours de l'émission d'aujourd'hui. Peut-être qu'on continuera la semaine prochaine. Mais donc, je t'avais transmis cet email, Barbara, et tu m'avais déjà envoyé quelques réflexions préliminaires par email aussi. Donc, si tu pouvais nous partager ces réflexions préliminaires, on ira plus loin à partir de ça.
Ok. Oui. Donc, dans mes réflexions, au niveau de la dualité, on trouve beaucoup dans le bouddhisme et dans le taoïsme. Ils ont toute une philosophie qui adresse là. Je ne dis pas que c'est toujours dans la dualité. Donc, en fait, il faut qu'on puisse aller plus loin. Mais voilà, ce que je remarque, c'est que le bouddhisme semble dire que la compassion vient du fait que tout être recherche le bonheur, mais que tout le monde qui est incarné doit passer par la douleur de la vieillesse et de la dégénérescence physique. Donc si nous comprenons cela, nous avons de la compassion pour tous les êtres incarnés dans la dualité. Le bouddhisme, le taoïsme, cherche l'harmonie, l'équilibre yin-yang dans la dualité, qui pour eux est inévitable en incarnation dans ce monde d'illusions que nous prenons pour vrai. Difficile de se rendre compte que nous sommes programmés à ce point, et encore plus difficile de lâcher ces programmes. Les animaux vieillissent devant nos yeux, ont mal partout quand ils sont vieux et finissent par mourir péniblement, ainsi que toutes les vieilles personnes que nous voyons autour. Et cela n'est que ce type de douleur-là, sans parler des crises dans les relations humaines. Donc, je comprends que le problème semble n'avoir comme solution la neutralité, l'acceptation résignée. Déjà, pour moi, compassion est plus juste qu'amour inconditionnel. C'est moins subjectif. Bien sûr, l'amour inconditionnel est censé ne pas être subjectif. Mais comme personne ou presque en est capable, chacun cherche désespérément comment aimer tout le monde avec cet amour teint d'émotions, de celles que la plupart connaissent. C'est pour cela que nous ne devons justement pas se fier au cœur. C'est pas ce qu'on nous dit, On dit voilà, que le cœur est plus juste, mais le cœur a des couches et des couches et des couches émotionnelles autour du cœur. Et voilà. voilà que ça nous amène dans notre sujet, parce que pour moi, ça serait plutôt d'activer le cœur supérieur, parce que c'est vraiment pas juste une idée, c'est physique, c'est éthérique, mais c'est l'éthérique, c'est physique aussi, hein. C'est juste plus subtil. Donc, parce qu'activer le cœur supérieur dégage d'autres hormones et d'autres phéromones. Et voilà, donc on a justement brièvement, mais dans les outils d'Almine, c'est les fragrances alchimiques pour nettoyer les méridiennes. Les 12 méridiennes que nous connaissons d'habitude et puis les 8 méridienne extraordinaire, comme on dit, également à travailler sur les organes éthériques, parce que sinon, on est obsédé par les peurs, colère, tristesse et d'autres préoccupations existentielles. Voilà. C'est un peu ce que...
Mmh. Ok. Bon, alors, comment répondre à cette question très complexe? Je vais essayer de la ramener à peut-être son point le plus central, le plus fondamental, qui est, est-ce qu'il y a des douleurs qui sont inévitables et comment les gérer si c'est le cas? Est-ce qu'il y a une douleur qui est liée à notre propre ou simplement au fait d'exister en tant qu'être individualisé qui est inévitable et comment la gérer? Et le deuxième aspect de sa question, c'est s'il y a des douleurs qui elles sont par contre évitables, comment faire pour gérer ces douleurs-là? Alors, qu'est-ce qui est évitable ou inévitable? Ça dépend. Ça dépend de la réalité dans laquelle on se trouve, je dirais, du cadre de référence par rapport auquel on observe tout ça. Si j'observe les choses dans l'absolu, c'est-à-dire si j'observe ce qu'est le but de l'existence, pour autant qu'on puisse dire quelque chose du but de l'existence. Je crois, avec Almine d'ailleurs, que l'existence n'a pas d'autre but que en anglais on dit enjoyment, self-enjoyment. Oui. Donc, le fait d'apprécier la jouissance de l'expérience elle-même. Je ne crois pas que la souffrance soit essentiellement inhérente à notre expérience d'être individualisé. La souffrance, à mon avis, est beaucoup plus présente dans la dualité. Pourquoi ? Parce que dans la dualité, les contrastes sont très accentués. Donc, il y a plus de possibilités de ressentir la souffrance dans le monde de la dualité que dans d'autres réalités où l'unité est beaucoup plus accentuée. Maintenant, énormément de souffrances physiques et émotionnelles sont produite par le fait qu'on vit à l'intérieur de matrices. Donc ça, c'est un concept qui est vraiment essentiel. Quand on parle de douleur évitable et de douleur inévitable, plus on est à l'intérieur d'une matrice, plus cette matrice est dense et programmée, plus les souffrances apparaissent comme inévitables, parce qu'elles sont dictées par les programmes de la matrice. Donc ici, il est important de rappeler ce qu'est une matrice. fondamentalement, la réalité, à un niveau essentiel, est quelque chose de très fluide. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Au maximum, il y a des principes. Il y a des principes qui sont en quelque sorte les fondements, les piliers d'une réalité. On peut dire que ce sont comme des tons musicaux avec lesquels on peut jouer pour composer spontanément la musique. Ce qui fait que des règles et des lois, comme les lois de l'univers, comme on appelle ça, apparaissent progressivement, c'est que on développe des croyances. Des croyances par rapport à la vie, par rapport à la manière dont la réalité fonctionne, dont l'univers fonctionne. Et si ces croyances sont suffisamment répétées, elles finissent par se manifester. Parce que, justement, leur accumulation forme une matrice qui, à ce moment-là, va dicter la manière dont notre expérience se produit. Ce que sont ces matrices, donc, ce sont des couches de croyances accumulées, comme des sédiments, et aussi des couches d'expériences passées, des couches de souvenirs, des couches de mémoire d'expériences passées. Et très souvent, justement, ces expériences ont été accompagnées de souffrances. Et certaines conclusions ont été tirées à partir de cette souffrance, sous forme de croyances, et ces croyances elles-mêmes deviennent des programmes. Donc, quelle est la solution pour sortir de ça? Eh bien, le premier pas, c'est justement de reconnaître que nous avons vécu à l'intérieur de matrices collectives, de matrices cosmiques, de matrices personnelles, et de faire le travail pour commencer à les nettoyer, les dissoudre. Et pour ça, il y a plusieurs approches qui sont possibles, et je dirais que pour commencer, par rapport au sujet de cette émission, les outils d'Almine sont vraiment un atout extrêmement précieux pour faire ce genre de travail et quelque chose de très efficace. Donc, que ce soit Belvaspata, que ce soit les yogas, que ce soit Arasatma, que ce soit l'alchimie des fragrances, ou d'autres outils encore, les eaux noires du Haraknit, etc., etc. Tous ces outils-là permettent progressivement de dissoudre les programmes, et donc le fait d'effacer ces mémoires anciennes fait qu'on est de moins en moins réactif au niveau émotionnel. Donc on n'est plus dans un mode de réaction émotionnelle réflexe par rapport à des stimulations extérieures. Une autre voie, évidemment, consiste à observer nos réactions émotionnelles et à essayer par l'intuition et l'attention éveillée de découvrir d'où elles viennent. D'essayer de détisser la toile, de détisser la tapisserie progressivement. Ça, c'est une voie qui est un peu plus mentale et qui risque de prendre beaucoup plus de temps aussi, mais bon, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Quelque chose de très important aussi, je dirais, par rapport à notre équilibre émotionnel, c'est le travail sur les subpersonnalités. Donc, le travail qui consiste à permettre aux subpersonnalités de l'enfant, du sage, du guerrier, du nourricier, de s'exprimer librement, mais aussi sans distorsion. Donc, ça, c'est tout un travail aussi d'apprendre à laisser ses voix intérieures s'exprimer et aussi de savoir là où sont les pièges, autrement dit les manières dont elles peuvent s'exprimer avec déformation plutôt qu'avec authenticité. Alors, plus on fait de nettoyage émotionnel, moins on est sujet à ces réactions conditionnées de souffrance. Donc, plus on est libre en fait. Et donc, tu disais, tu écrivais dans ta réponse, Barbara, que l'alchimie des fragrances pour nettoyer les méridiens était très utile. Effectivement, donc les différents Belvaspata qui travaillent sur la dissolution des matrices, comme Kanish Belvaspata, ou sur. Kanish travaille beaucoup sur les croyances et sur les matrices. Et les différents Belvaspata qui guérissent les émotions, comme le niveau 1 de Belvaspata avec les 12 paires d'émotions pures, ou le Belvaspata de la guérison émotionnelle profonde, qui s'appelle Belvaspata Ravespistra Unath. Le Belvaspata de l'unité pour guérir les traumatismes des vies passées, et finalement Krihanash pour nettoyer les méridiens. Beaucoup d'émotions négatives sont accumulées dans les méridiens, comme de la pollution peut s'accumuler dans les cours d'eau. Donc tout ça permet de vivre une vie beaucoup plus harmonieuse sur le plan émotionnel. Et donc, reconnaître qu'on a vécu ou qu'on vit encore dans une certaine mesure dans des matrices qui conditionnent nos réactions et qui nous imposent en fait de vivre de la souffrance constitue le premier pas. Commencer à les nettoyer, c'est le deuxième pas. Maintenant, tant qu'on est à l'intérieur de ces matrices, je pense qu'il est essentiel d'accepter que la souffrance en fait partie. Autrement dit, de ne pas chercher à être dans le déni et à fuir la souffrance quand elle se présente. Parce que le déni ne donne jamais de bons résultats. Et ce qu'on refuse de voir et de ressentir en nous, on lui donne puissance en fait, on le rend plus puissant. On le rend plus puissant parce que on le rejette. Et tout ce qui se voit rejeté, tout ce à quoi on refuse son droit à l'existence, devient virulent. Et donc, on peut avoir ces schémas émotionnels rejetés, déniés, qui s'accumulent dans le subconscient et qui deviennent de plus en plus puissants et qui en fait manipulent nos réactions en dessous de la surface. Donc, très important, je crois, de ne pas rejeter la souffrance quand elle se présente, ne pas en faire toute une histoire non plus, ne pas se ressentir comme une victime, ne pas se complaire dans la souffrance, ne pas l'accentuer par tout un cinéma mental, mais l'embrasser, je dirais, l'embrasser avec compassion. Quand vous êtes dans une situation de réaction émotionnelle ou de détresse émotionnelle, prenez le temps, asseyez-vous, prenez le temps de le ressentir vraiment dans l'acceptation. Parce que c'est une des manières les plus efficaces de débloquer les choses, de laisser les choses s'évacuer. Sortir de votre système. Voilà, donc c'est en quelques mots, hein, en quelques phrases, en quelques minutes, c'est la réponse essentielle que je peux apporter par rapport à cette question. Et donc, comme je le disais, on en parlera peut-être encore la semaine prochaine.
Est-ce qu'il y a une zone là?
Comment?
Moi, de mon côté, il y a un écho. Oh là, c'est parti, voilà. Ok. Emmanuel disait aussi la souffrance des autres, par exemple. Oui, je crois qu'il faut pas. Il faut pas nier la souffrance des autres parce que c'est eux qui le vivent, mais c'est à eux de trouver ces perceptions, ces intuitions. Donc on peut encourager ça, mais on ne peut pas leur donner des réponses. Parce que ce serait une autre réponse et puis ça serait mettre beaucoup d'accent là-dessus. Mais on peut encourager quelqu'un de ressentir ce qu'ils ressentent et essayer de ressentir d'où ça vient. Il y en a quand même beaucoup qui viennent de subconscient collectif, comme on disait, mais de la société où nous vivons. Et ici, dans l'Occident, nous cherchons à fuir la souffrance et nous cherchons toujours des solutions à des solutions, ça veut dire qu'on le voit comme un problème. Et depuis combien d'années, depuis un siècle en tout cas, on cherche des solutions médicales, des spécialistes qui vont nous trouver la solution. Or que bien sûr dans la médecine traditionnelle de toutes sortes, il y avait aussi des solutions. Mais nous semble dans l'Occident, essayer de nier que ces souffrances ont leur place, et on est super sensible. Je crois que justement Emmanuel faisait allusion aussi à ça. Et dans d'autres sociétés, non. Et on voit bien que quand on élève, par exemple, un petit enfant, si chaque fois qu'il tombe, tout le monde vient, « Oh, mon pauvre petit !» Alors, il croit que c'est dramatique. Or, eux, c'est pas dramatique en général. Et à fur et à mesure, il apprend à marcher sans tomber. En attendant, on met un sparadrap sur son genou. Et j'ai remarqué que quand on a peur, et voilà, si l'enfant, par exemple, est là, il a peur de se faire mal, parce qu'en fait, son entourage a peur qu'il ait mal, parce que l'entourage pense qu'il est très fragile. On a beaucoup plus mal quand on a peur.
Oui.
On va chez le dentiste, on a peur.
Oui.
Purée. Parce que c'est normal, on est tendu. Quand on est tendu, c'est pour ça qu'il y a justement des méthodes de sophrologie ou d'autres que je connais mal, mais enfin, pour pouvoir se relaxer, se détendre. Parce que dès qu'on est tendu, on va forcément avoir plus mal, que ce soit...
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est quand même... Ça fait partie de la psychologie de base.
Oui.
C'est pas de la spiritualité ni rien. Mais il faut tenir compte de ça, que quand on a tendance à se hypnotiser... par les croyances autour de nous aussi, et jusqu'à une certaine mesure, et puis éventuellement, peut-être à une très grande mesure, on peut non pas marcher là-dedans, si on veut, si on le reconnaît.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a de plus en plus de petites pilules de nos jours qui sont prescrites pour éviter aux gens de ressentir de l'inconfort psychique, hein.
Oui,
avec toutes sortes d'effets secondaires, d'ailleurs, c'est assez stupéfiant.
Oui.
Donc, effectivement, c'est une attitude de rejet par rapport à l'inconfort et par rapport à sa forme accentuée qu'est la souffrance. Et c'est pas vraiment quelque chose qui est productif, ni efficace, ni mature, je crois. Donc, encore une fois, je crois que c'est une étape très importante, tant qu'on est dans une matrice de dualité, d'accepter que la souffrance en fait partie, sans la valoriser, sans la mettre sur un piédestal, sans la dramatiser non plus, et sans en avoir peur. Avoir peur, parce que la peur de la souffrance accentue la souffrance. Donc, comme on disait tout à l'heure, je crois que l'embrasser quand elle se présente est une attitude clé, est une attitude importante. Et d'un autre côté, est-ce que la souffrance est inévitable? Je ne crois pas. Mais il y a tout un travail de déconstruction des matrices qui précède la possibilité de pouvoir transcender la souffrance, peut-être pour de bon, hein, peut-être pour de bon. Et en attendant, eh bien, acceptons qu'elle fait partie de notre expérience et simplement apprenons à la gérer au mieux, avec tous les outils qui sont à notre disposition. Voilà, alors pour terminer l'émission, je vais vous traduire un des fragments de l'interview d'Almin. Donc, on est toujours ici en train de parler du cœur supérieur. Excusez-moi, mais ce n'était pas la bonne audio, donc.
So for opening up the high heart, you've given sigils, you've given concepts to work with. There's now also a fragrance. Why is the high heart so closed up, and are all of these things needed to open it up?
Donc Niels dit que différents outils ont été donnés pour ouvrir le cœur supérieur, notamment un sigil et plus récemment une fragrance. Il demande pourquoi. Le cœur supérieur semble être tellement fermé. Et est-ce que des outils sont vraiment nécessaires pour l'ouvrir?
Needed is something that can be a yes and a no when applied to any of our tools that we've received over these years.
Donc Almin dit que quels que soient les outils que nous avons reçus au cours des années, on peut considérer qu'ils sont à la fois nécessaire et pas nécessaire. C'est une question de point de vue.
Because it's like the training wheels on the child's bike. Are they really needed? No. If the child could just get on that bike and everybody knows he's not going to fall off and can drive right away, but it's unlikely.
Donc, elle dit que c'est comme le petit stabilisateur, les petits trous additionnels qu'on place sur les vélos des enfants. Est-ce que ces roues sont absolument nécessaires? Non. Si tout le monde savait que l'enfant peut simplement monter sur son vélo et commencer à rouler sans risque de tomber, mais c'est très improbable.
So, you know, maybe you have some genius bike riding little child somewhere, but it's unlikely. So, this is the training wheels, and at some point, the training wheels come off.
Donc ces outils sont comme des petits trous de stabilisation pour les vélos d'enfants et à un certain moment, ben, on les enlève, on n'en a plus besoin.
So they are extremely helpful. And especially the oil in conjunction with the sigils, they are very helpful.
Donc ces outils sont d'une aide précieuse, particulièrement les huiles en conjonction avec les sigils sont très utiles.
So why if you ask me why it's so plugged up, I think that we must take a look at it. In fact, it has been so plugged up that we've been unaware of it.
Donc pourquoi le cœur supérieur a-t-il été tellement bloqué, tellement bouché? En fait, il a été tellement bouché que nous n'étions même pas conscients de son existence.
There have been 670 acupuncture points in the body, two of which were missing. There should be 672. There's only been 670.
Donc, il y a eu deux points d'acupuncture dans le corps qui étaient manquants. Parce que on travaillait avec 670 points d'acupuncture. Et en fait, il devrait y en avoir 672.
The two is the 2 inches above the belly button. Depending on how thick your fingers are, you know, it's possibly just a couple of fingers above the belly button. And then the high heart is the 672nd acupuncture point.
Et donc, les deux points manquants étaient celui qui se trouve de largeur de doigt au-dessus du nombril et le cœur supérieur lui-même est un point d'acupuncture.
And when the high...
Barbara, je ne me trompe pas, hein, c'est bien ce qui vient d'être dit, que le cœur supérieur est le 672e point d'acupuncture.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui, 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 c'est deux qui,
oui.
Enfin, qui sont nouvelles. C'est celui au-dessus du nombril, c'est le premier.
C'est ça.
Hein, qui représente le rat et la production de la cellule de sang noir.
Mm-hmm.
Et effectivement, le dernier, le 72e, c'est bien le cœur supérieur.
Okay.
Qui est vers le thymus.
Qui se trouve effectivement dans le sternum à hauteur du thymus.
Divine compassion flows through. We become vehicles of divine compassion. And if you want to know the single most important thing to wield miracles and live a life of magic, it is that the frequency, and frequency is not the...
Donc, Almine explique que quand le cœur supérieur est activé, la compassion divine s'écoule à travers lui. Nous devenons des véhicules pour la compassion divine, des vaisseaux. Et elle dit que si on veut savoir ce qu'est la fréquence la plus importante pour vivre une vie de magie et de miracles, et le mot fréquence n'est même pas le mot juste qu'on devrait utiliser ici.
It's not just a frequency. It is, let's call it, see, it's really luminous tonality or tonal luminosity. It's called...
Donc, ce n'est pas une fréquence, c'est en fait une luminosité tonale ou une tonalité lumineuse.
Combined with sound and light.
C'est le son et la lumière combinés.
Let's just call it a tone.
Mais pour l'instant, on va se contenter de l'appeler un ton.
The tone of divine compassion comes through. At that point, magic becomes easy because it's got its own braking system in place and that overrides the braking system.
Donc, quand le ton de la compassion divine est émis, la magie peut commencer à se mettre en place parce que elle a alors son propre système de freins qui entre en fonction. Et ce système de freins remplace, si on peut dire, ou en tout cas, comment dire ça, surmonte. C'est pas le mot non plus, je cherche le mot.
C'est pour quel mot en anglais encore?
Override.
Ah oui.
Donc, disons que ce...
C'est pas surmonter, mais c'est...
Non,
le...
dépasser, enfin bon. Bref, c'est l'idée que ça passe au-dessus. Le système de frein, qui est en quelque sorte la divine compassion, s'impose ou dépasse l'autre système de frein qui était en place.
Imagine, oui, et qui fait en sorte que l'autre, on ne s'en sert pas,
mm-hmm.
et on se sert de la nouvelle.
Oui.
Giving is in each instant having its own braking system, so it cannot be misused. For instance, many of them that came in from the other kingdoms have the perception that are necessary for the practitioner to do the magical protocol.
Donc, ce système de frein, entre guillemets, permet que la magie ne soit pas utilisée à des fins néfastes, qu'elle ne soit pas, qu'on n'en abuse pas. Et si on observe, par exemple, la magie qui a été offerte par les autres royaumes, comme la magie des fées, par exemple, ces protocoles de magie sont venus avec certaines perceptions spécifiques, certains messages, certaines compréhensions qui devaient servir à mettre le praticien dans l'état de conscience adéquat. pour utiliser la magie de manière adéquate.
And if they don't have it, then it doesn't work well.
Et s'ils n'ont pas cet état de conscience adéquat, alors la magie ne fonctionne pas très bien.
So this is again a breaking system that can let go its opposition to magic when that divine compassion becomes the song of ourselves.
Et donc, quand nous émettons le chant de la divine compassion, le système de freinage qui était en place au départ n'est plus nécessaire parce que c'est la divine compassion elle-même qui devient, entre guillemets, ce système de freinage.
It comes from the high heart opening. The sigil of the compassion, divine compassion, has 14 points, and the 15th point is in the center.
Donc, le sigil de la divine compassion a 14 points, et le 15e point se trouve au centre.
And that 15th point in the center, if you design the sigil around the body, that point is in the high heart.
Et si on place ce sigil dans un grand schéma, dans un grand dessin autour du corps, le 15e point se trouverait à l'intérieur du cœur supérieur.
So there's that.
Voilà. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que on est déjà bien au-delà de notre demi-heure d'émission. Donc on va vous dire au revoir pour aujourd'hui et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine si vous le souhaitez. Et d'ici là, passez de très bons moments. Au revoir.
Au revoir, à la semaine prochaine.